L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Avec lui, nous allons évoquer la situation au Niger et ses probables évolutions et ses impacts sur le plan national, régional et international. En effet, le 16 août, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a estimé qu'une intervention militaire de la CEDEAO peut conduire à un massacre. L'Union africaine s'est ainsi désolidarisée de la CEDEAO qui soutient une intervention militaire. Par ailleurs, le changement de pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali avant est la fin officielle de la France-Afrique, a déclaré à Spoutnik l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karine Kensel, en poste de 2017 à 2019. La France, dit-elle, perd progressivement pied dans les pays africains. Ils ont été expulsés du Mali, ils ont été expulsés du Burkina Faso. Maintenant, le Niger veut fermer les bases militaires françaises dans le pays. Pour la France, ajoute-t-elle, je pense que c'est la fin officielle de la politique de la France-Afrique, puisque les nouvelles autorités, sous-entendu du Niger, peuvent choisir. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Le Burkina Faso et le Mali ont considéré que toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait une déclaration de guerre à eux également. Alors, ma question, avec quelles mesures militaires le Burkina Faso et éventuellement aussi le Mali pourraient aider le Niger en cas d'intervention militaire de la CEDEAO?
Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, on n'a même pas le droit de nous faire la guerre entre nous. Nous sommes partis sur des bases économiques où on est pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie et surtout, ce qui est choquant, pour ramener, instaurer un régime peut-être qui est déchu par le coup d'État. C'est assez contradictoire. Ce n'est pas la première fois dans nos différents pays. Et la CEDEAO aussi doit être pour travailler dans le problème de la gouvernance, pour suivre et voir l'évolution dans les différents pays. Et d'ailleurs, pour ça, la CEDEAO a des cellules dans les différents pays, et même au niveau central à Abuja, qui est le centre d'alerte précoce. Le centre d'alerte précoce est censé donner les informations nécessaires sur les différents éléments qui se passent dans les pays. Ça veut dire que normalement, en tout état de cause, la CEDEAO est toujours un peu avertie. Je le dis parce que moi-même, je travaille à la CEDEAO. Mais souvent, on a ce problème que les dirigeants, les chefs d'État ne tiennent pas compte des travaux des techniciens. Sinon, il y a souvent des indicateurs qui sont donnés par des instruments, des outils, des personnels de la CEDEAO. Si les dirigeants tenaient compte des avis, des conseils et du travail des techniciens, il y a beaucoup d'erreurs qu'on aurait pu éviter. Tout le monde condamne les coups d'État, oui, mais dire qu'il faut remettre, faire une intervention pour réinstaller un chef d'État déchu dans un pays qui est sous l'influence des attaques terroristes, c'est quand même ridicule. Alors qu'on se dit que la CEDEAO est censée venir en aide en termes de solidarité pour combattre le terrorisme. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que la CEDEAO adhère à un ambitieux plan qui était établi pour 2020-2024 pour lutter contre le terrorisme. Malheureusement, ce plan n'a pas été mis en exécution pour faute de moyens financiers. Et l'objectif étant, sur le plan sécuritaire, ce n'est pas réglé, ça apparaîtrait comme bizarre qu'au lieu de régler les problèmes sociaux dans la communauté, on ne l'ait pas fait et que ce soit une décision des chefs d'État qui veut que d'autres États de la même communauté aillent s'attaquer aux militaires d'un pays membre parce qu'on tient à réinstaller un autre chef d'État. Je ne sais pas si réellement ce sont nos concepts parce que ce que nous savons, on nous a toujours parlé de la CEDEAO des peuples. Et c'est d'ailleurs cette dynamique de la CEDEAO des peuples qui est en activité parce que les populations, à grande majorité jeunes, ont compris des grands enjeux qui se passent sur le plan international et ce qui concerne nos différents pays. Nous attendons de voir. Ce qui est sûr, le Burkina est solidaire du Mali là, pour toute agression contre le Niger. Parce que du fait que nous sommes déjà frontaliers, et nous avons mené, et nous sommes obligés de mener la guerre contre le terrorisme ensemble.
Le 16 août, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a décidé de s'abstenir à utiliser la force contre les nouvelles autorités du Niger. Alors, partant de la position de votre pays et celle du Mali, qui se range aux côtés du Niger pour faire face à une éventuelle intervention militaire, alors comment le Burkina Faso évalue-t-il cette position du Conseil de sécurité de l'Union africaine? Vous attendiez-vous à ce genre de décision de la part de la CEDEAO?
Dieu merci si la CEDEAO a eu cette sagesse. Parce qu'il faut d'abord voir réellement qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, peut-être que dans l'histoire, vous allez voir, je vous dis par exemple, je vous donne par exemple l'exemple du Burkina Faso. Pour dire que s'il y a un coup d'État dans un pays qui ne convient pas, soyez sûr que les populations elles-mêmes sortiront pour se faire justice dans ce cas. Et ça s'est passé au Burkina en 2016. Le 16 septembre 2016, ça s'est passé au Burkina. C'est comme les printemps arabes. Il y avait des chefs d'État assez puissants. On n'aurait jamais pu imaginer qu'ils allaient partir, mais de par les actions des populations, de la jeunesse, ces chefs-là, ces dirigeants-là sont partis. Et le Burkina, c'est arrivé en 2016, où un général a fait le coup d'État. Il ne reste que pendant 6 jours, sous la pression de la population et des institutions internationales, il est parti. Ça, ça a été une voie sage. Et l'Union africaine est intervenue. Et c'est ça que d'abord la FIDO devait étudier. Voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe réellement. Il ne faut pas que les gens se laissent prendre dans des commentaires de parties prenantes. C'est ça le danger pour éviter toute analyse. Et je crois que beaucoup ont commencé à comprendre cette manipulation qui se passe. Tant mieux si l'Union africaine a saisi le message de la population du Niger. Il ne faut pas faire des sanctions, il ne faut pas chercher à sanctionner les populations inutilement. C'est le cas ici également de dénoncer l'ensemble de ces sanctions inimaginables qui ont été prises à l'encontre du Niger. Ceux qui sont au pouvoir ne sont qu'une infime partie. Il faut penser à la population. Et c'est d'ailleurs ça qui révolte les populations. Donc ça fait que déjà, qu'il y a maintenant une union entre le nouveau pouvoir et une grande partie de la population. Et ça fait un problème.
Bien. Alors, je vous remercie pour toutes ces réponses et ces éclaircissements. Ma troisième question, j'aimerais bien revenir au sommet Russie-Afrique. Lors de ce sommet, le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a discuté avec le groupe des projets de coopération et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Alors, on aimerait bien savoir quel type de projet sécuritaire et de défense le Burkina Faso développe-t-il avec la Russie. Et permettez-moi une question un petit peu tirée par les cheveux. Un projet de base militaire russe au Burkina Faso est-il envisageable?
Non, merci pour cette question et merci encore au partenariat avec la Russie. D'emblée, on l'a dit, même actuellement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il ne s'agit pas de faire venir des étrangers ou de faire venir des troupes étrangères ou des bases. Ce n'est pas évident que ça puisse résoudre le problème. Nous savons ce qui est réellement sur le terrain. Nous sommes sur nos sols. Il est difficile, même pour nous qui sommes sur le sol, de souvent nous en sortir. Et c'est ce qui s'est passé avec l'embuscade d'aujourd'hui, que de laisser d'autres soldats venir mourir à votre place pour ça. Le Burkina, dans cette dynamique, on dit il faut nous donner les moyens nécessaires pour que nous puissions faire notre guerre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a adopté le concept des volontaires pour la défense de la patrie. On a beaucoup été critiqué là-dessus, mais on a compris que c'était pour nous décourager dans la voie que nous croyons la meilleure actuellement pour mener notre combat. Parce que c'est les mêmes populations qui subissent les effets du terrorisme qui ont demandé à être formés, sensibilisés pour participer à cette lutte. Il ne s'agit pas, je le répète ici encore, des tentatives de gouvernement pour former des groupuscules ou des cellules pour aller combattre d'autres ethnies. Non. Dieu merci, le groupe Kina n'a pas connu de seigneur de guerre. C'est de la volonté populaire que ce concept a été mûri et nous sommes en train de l'implémenter avec les améliorations possibles, avec le cadre juridique qui a été fait. Mais pour être sûr que ce personnel est sensibilisé au maniement des armes et surtout à la protection des droits de l'homme. Donc, parler d'une base militaire n'est pas la question du jour. C'est surtout coopérer qu'on ait les moyens nécessaires pour partir.
Encore une fois, monsieur le ministre, votre pays et le Mali ont mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger. Et pour étayer leurs arguments sur les, justement, ces probables conséquences désastreuses, Bamako et Ouagadougou rappellent l'intervention de l'OTAN en Libye qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel. Alors, on aimerait bien que vous nous expliquiez pourquoi ce parallèle entre ce qui s'est passé en Libye en 2011 et ce qui pourrait se produire au Niger et avec ses probables conséquences sur tout le Sahel.
Non, parce que nous sommes là, nous vivons ce qui se passe. C'est nous qui sommes sur le terrain, on va commencer. Ça s'est passé par la Libye, avec les hésitations, peut-être de la manipulation souterraine de nos chefs. La Libye a été abandonnée. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui est là-bas s'est déversé sur nos différents pays. Et c'est d'ailleurs, ça fait une grande partie qui se retrouve dans les terroristes qui nous utilisent. Mais il faut aussi rappeler que, on le dit, mais il faut aussi souligner que même actuellement, entre nos pays, membres de la CEDEAO, il y en a qui financent, il y en a qui profitent. Il semble bien, il y a des données là-dessus qui soutiennent ces mouvements terroristes pour faire mal à l'autre. Je vais vous dire quelque chose, qu'on a reçu l'information juste après le coup d'État au Niger. L'ex-président Bazoum, sur les chaînes de télé, avait critiqué les volontaires pour la défense de la patrie du Burkina. Il a dit tellement de choses. Mais on s'est rendu compte que lui-même, il faisait pareil au Niger, où il y a des gens qui étaient recrutés, qui étaient formés, qu'on laissait partir. Il y a eu cette histoire qu'on appelait des repentis. Des repentis qu'on récupère, qu'on les amène dans des casernes, on les forme, et c'est pour faire quoi? Ce que nous connaissons, un repenti, quand on le prend, on le forme, c'est pour le mettre dans une filière quelconque de production, mais pas le ramener à des formations militaires. Donc nous avons compris, en ce temps, on l'a dit, au fait, c'était pour nous décourager face à ce concept que nous avons adopté pour lutter mieux contre le terrorisme.
Alors, la question suivante. Lors d'une interview à Spoutnik Afrique, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a étayé l'idée d'une fédération avec le Mali. Il a notamment indiqué que d'autres pays pourraient se joindre à cette fédération s'ils sont intéressés. Alors, considérant les événements en cours au Niger, pensez-vous que Niamey pourrait être intéressé justement par cette idée de fédération?
De toute façon, ça, c'est une question qu'il faut poser à la population nigérienne, peut-être aux nouvelles autorités. Nous n'avons pas besoin de faire une certaine publicité sur les problèmes de fédération ou pas, mais nous savons que c'est une idée qui choque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé cette histoire-là, qu'à une réunion de la CEDEAO à Addis Abeba, la communauté économique a pris des sanctions contre les dirigeants des trois pays. Et actuellement, nous sommes normalement tous interdits de voyage parce qu'il y a eu cet esprit de fédération. C'est des mouvements qui arriveront, c'est de la dynamique sociale. Les populations manifestent, les populations réalisent, les dirigeants ne font que canaliser et partir. Ça ne se décrétera pas automatiquement. C'est dans cette volonté-là de savoir qu'on est dans un ensemble d'activités qui nous concernent, on décide de s'unir. la communauté commune des États. Je vous rappelle que d'abord la CEDEAO a été créée par des dirigeants où la grande partie était venue par des coups d'État. Et c'est eux qui ont mis en place la CEDEAO. Vérifiez dans les archives que la CEDEAO est mise en place par des dirigeants qui étaient venus au pouvoir par des coups d'État. C'est-à-dire que les coups d'État, c'est peut-être des problèmes de gouvernance qu'il faut voir. Voyons les causes, ne voyons pas la finalité. Voyons qu'est-ce qui fait qu'il y a des coups d'État. Si ça s'est réglé, c'est sûr qu'il n'y aura pas de coup d'État. Je vais donner l'exemple du cas, je reviens de Burkina, où il y a un coup d'État contre la première transition en 2016 et ça a échoué. Personne n'est tout que non. Les institutions étaient prêtes à tout faire pour accepter le coup d'État, mais c'est la population qui a dit non. C'est le Nil à dire que non. On sait comment ça s'est passé. C'est la population qui a dit non. Et bien les autres ont condamné. C'est d'abord ça. Il faut que nous apprenions à prendre en compte cette dynamique des sociétés, cette dynamique des populations. Ce n'est pas en imposant. Au contraire, quand on impose, quand on est censé, ça regroupe les gens, ça amène les gens à l'unisson. Et c'est ça qui se passe pour le Niger. Et ça a commencé, ils ont commencé à réviser suspendre les accords avec la France. C'est ça. Mais le fait que ça arrive directement, ça fait que les dispositions sont prises. La population le manifeste, les gens sortent et le manifestent. Est-ce que ce sont les dirigeants des trois pays qui disent aux populations de sortir les drapeaux russes? Quand nous sommes aussi assis, vous êtes surpris de voir des gens qui manifestent, mais ils ont des drapeaux russes dans la main. C'est eux qui crient, mais ce n'est pas une imposition ou un dictat des autorités actuelles. C'est les populations qui le manifestent. Et les drapeaux qui sont brûlés. Il y en a qui ne sont pas brûlés. Mais et pourquoi ça? Ce n'est pas un dirigeant actuel qui dira non, il faut. Non, ça on ne fera pas cette manipulation. On laisse les populations assez conscientes, assez matures, de peut-être se manifester. Il faut peut-être les canaliser pour éviter les casses. Et c'est ce que nous faisons souvent maintenant. J'ai même vu ça au Niger, où mon collègue de la Défense était obligé lui-même d'aller au niveau de l'ambassade de France pour éviter les casses. Ça veut dire que non, quand il y a des manifestations, nous sommes loin de ça. Nous faisons le meilleur possible pour essayer de canaliser les gens. Mais souvent, c'est mal compris. Mais nous regardons. Même dans les grands pays de manifestants, on voit comment ça se passe.
Bon, pour la question suivante, votre pays, avec le Mali, ont obtenu le retrait des forces françaises après leur échec face au terrorisme. Je parle, bien sûr, des unités de l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval. Le dispositif militaire français au Niger est également en passe d'être obligé de quitter le territoire. Et après, donc, le changement de pouvoir qui s'est opéré dernièrement. Alors, comment voyez-vous cette tendance dans la région?
Ce n'est pas une tendance, c'est une réalité. Quand vous êtes sur un terrain, vous êtes en partenariat avec quelqu'un, c'est pourquoi on parle de partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Mais il ne faut pas que vous soyez en partenariat avec quelqu'un et que vous veuillez l'aveugler, lui cacher les yeux, lui fermer la bouche, lui fermer les oreilles. Non. Il faut qu'on puisse se parler. Quand je puisse discuter et quand je dis quelque chose, qu'on se comprenne. Il ne faut pas être en partenaire et vous êtes comme un assisté. Non, ça ne peut jamais arranger les affaires. Vous êtes quelqu'un qui se prend comme le grand maître et vous êtes l'esclave. Non, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui se passe. Nous avons trouvé des textes que nos aînés ont peut-être signés. Nous savons aussi dans quelles conditions certainement ça a été fait. Nous avons vécu ça. Il y a de quoi quand même qu'il faut voir avec l'évolution de la situation, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui fait qu'il y a des révisions qui ont été faites. Et il y a des niveaux où on dit non, on arrête ces partenariats. Donc c'est ce qui s'est passé. Au Mali, ça s'est passé. Parce que si vous avez un partenaire qui n'est pas, où il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de langage de vérité, ils vont s'en dire que ça n'arrive pas. Je ne peux pas être en partenaire avec quelqu'un quand je lui demande quelque chose, qu'il dise non, il faut faire ça, il faut passer par ça. Quand on est en partenariat, on ne sait pas. Pendant que la maison brûle, on est à mesure d'éteindre le feu. Mais il ne faut pas qu'on me dise que pour éteindre cet incendie, il faut que non, je contacte telle personne, non, ça ne marchera pas. C'est assez choquant, c'est assez révoltant. Et si vous voyez ce qui était dans ces mémorandums, enfin, c'est inimaginable. On ne les chasse pas, c'est le fait même que ça se passe, c'est le comportement qui fait ça. Il peut y avoir des papiers, mais avec l'évolution, on essaie d'être flexible, d'aménager, oui. Mais si on veut appliquer stricte sensus comme ce qui est sur les papiers, il va s'en dire qu'il y a un clash là-dessus. Parce que tout le monde a les yeux ouverts maintenant, nos mentalités sont là. On a beaucoup de moins d'informations. Quand il y a ça, Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à fermer ses yeux, à fermer sa bouche et ses oreilles. Ça ne passera pas. Chacun a son esprit, son intelligence, et ça sera difficile.
Une dernière question, monsieur le ministre. Le chef de l'État burkinabé a récemment évoqué le danger que représente pour l'Afrique le trafic d'armes occidentales en provenance d'Ukraine. Alors, comment estimez-vous les risques pour les pays du Sahel qui combattent le terrorisme dans des proportions beaucoup plus grandes depuis le renversement et l'assassinat du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi?
Mais ça, c'est évident, parce que tel que les armes sont déversées, c'est ce que nous avons dit. Nous avons pris le courage de dire qu'au Burkina, nous formons des volontaires pour la défense de la patrie, du volontariat. Nous avons suivi les images en Ukraine, où les gens étaient forcés de rester pour faire la guerre. On a vu des couples séparés de force parce qu'ils embarquaient dans le train pour laisser faire la guerre. Ça n'a pas été critiqué. Hein. Nous, on a demandé des volontaires, on dit non. On entend former des civils pour avoir l'abattoir. Et ces civils qui sont en Ukraine, qu'on a obligés à rester pour faire la guerre, on ne les a pas envoyés à la boucherie. C'est ça qui est le truc. Même les grands pays sont le font. Et quand il s'agit de nos pays, non, les gens n'en ont pas fait cas. Et c'est ce que nous reprochons encore pour cette histoire de terrorisme. On nous dit qu'on a le terrorisme dans nos pays. Le terrorisme dans les Burkina, au Mali, au Niger, c'est des affiliations ACMI, Daesh, le grand État islamique. Mais concrètement, dans les grands pays là, qui combattent ça partout, qui disent qu'ils sont prêts à combattre ça partout, on ne voit pas ça, cet effet dans ces trois pays ou en Afrique parce qu'il y a ce terrorisme. Pourquoi? Nous nous sommes posé la question à savoir, est-ce qu'il y a une logique à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, ou bien que on veut encore nous cacher la face ou même nous boucher les esprits pour nous faire croire à un terrorisme peut-être qui a une origine quelconque ailleurs et non le terrorisme que nous connaissons. Si vous dites que c'est affilié à ACMI, à Daesh, et vous ne faites rien, alors que vous faites tout pour ça, il y a un problème. Donc ce sont des trucs pareils qui font qu'on ne comprend pas souvent grand-chose. On le comprend, mais on sait que c'est fait sciemment, mais on l'a compris. Donc, il est sûr que l'armement qui est déversé dans un pays comme l'Ukraine, en guerre, c'est sûr que tout ne sera pas utilisé. On espère que la guerre finira le plus tôt possible. Et qu'est-ce qui va se passer après? Comment ce matériel sera récupéré? Puisque les gens ont été forcés de gré à aller en guerre. Est-ce qu'est-ce qui est prévu comme un plan d'aide là-dessus? Ne voyons pas ça. Actuellement, les gens pensent plus à la reconstruction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour engranger beaucoup plus de marchés? Mais les armes qui ont été versées, les personnes qui ont donné les armes, là, on fera quoi de ces personnes? On n'en parle pas. Et ça, c'est le truc qu'il faut voir. Les gens sont plus qu'intéressés à savoir quels sont les contrats qui pourraient être passés pour reconstruire l'Ukraine. Maintenant, les armes qui ont été versées, on en fait quoi? Et c'est ce qu'on a dit. En Libye, c'est parti très facilement, mais le service après-vente de cette guerre sur notre sol africain, c'est ça qui n'a pas été réglé. Nous espérons que dans le cadre du partenariat, tous les moyens seront mis en œuvre pour quand même arriver à tracer et à suivre ces armes-là qui sont déversées en Ukraine. Pour que ça ne vienne pas dans nos pays, en tant que ça ne vienne pas dans les pays africains encore. Je crois que tous les tests possibles seront faits là-bas et que ça s'arrête là-bas. Que les gens puissent récupérer les armes qui ont été déversées et commencer à les détruire au fur et à mesure. Ça, c'est la meilleure idée. Et ça devrait être une des idées, un des plans d'action futurs de l'ONU et de toutes les organisations, et surtout de l'ONU.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mes deux autres invités, les experts Sulayman Hamza du Bénin et Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mes invités pour cette seconde partie sont les experts Sulayman Hamzat du Bénin et Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Souleymane Hamzat. Je rappelle que vous êtes consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Alors, les services de l'enseignement britannique ont formé et envisagent désormais d'envoyer en Afrique une centaine de nationalistes ukrainiens pour empêcher le rapprochement entre les pays du continent et la Russie, comme l'indiquent des médias. Disons que ce même jeu, nous l'avons vu dans le conflit en Syrie, les transits des djihadistes à partir de la Libye, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons imaginer un peu le scénario, comment il peut se produire. Alors, cette annonce intervient quelques semaines après le sommet Russie-Afrique et sur fond des événements au Niger, autrefois allié stratégique des Occidentaux. Comment interprétez-vous cette tentative, disons, ou cette opération, si elle s'avère bien sûr juste et qu'il y a des preuves matérielles que réellement elle s'est déroulée?
Cette information que vous nous donnez est une information qui est connue des différents services de renseignement, à savoir ceux du Mali, de la Guinée, du Burkina. C'est pas quelque chose de caché, hein. On sait que l'agenda occidental et plus particulièrement français et britannique sont dans une logique de destruction depuis un certain temps et nous l'avons évoqué. Nous savons que des armes, et nous l'avons dit sur plusieurs plateaux de télévision, que des armes destinées, n'est-ce pas, à l'Ukraine atterrissaient en Afrique. Cela même a été révélé par l'ex-président du Nigeria, le général Muhammadu Buhari, qui l'avait dit en plein sommet de l'Union africaine, à savoir qu'il fallait redoubler d'efforts pour que nos frontières ne soient pas poreuses. Et c'est un phénomène qui est connu. À partir du moment où des armes qui sont destinées à un pays en guerre se retrouvent en zone africaine, mais il est question que nos différents services de renseignement s'interrogent non seulement sur la provenance de ces armes, sur ceux qui en sont, si vous voulez, les auteurs, et à quelle fin, à quel but ce déploiement d'armement est-il destiné. Et je pense que là, cela rejoint un peu votre question de savoir pourquoi les services britanniques cherchent-ils à déstabiliser l'Afrique. Mais je vous renverrai aussi simplement que ça sur le pipeline du Nord Stream 1 et du Nord Stream 2, d'après le Washington Post, qui parle de l'apport technique, n'est-ce pas, des services comme les services britanniques pour avoir fait sauter ces pipelines-là. Donc, c'est vous dire que les Africains sont mobilisés, déterminés à faire face à tout ce genre d'éventualités. Il faut savoir que il y a des années, on laissait passer tout. Mais cette fois-ci, je vous assure, je vous le dis à Mondo Vision, les Africains sont réveillés. L'éveil des consciences est au maximum, au paroxysme de son terme. Et je crois que rien ne sera plus comme avant. Les informations que nous avons et qui font état de ce que des mercenaires ukrainiens seraient en train de se préparer à venir intervenir, quitte à cibler des leaders de la galaxie patriotique panafricaine. Écoutez, il faille à ce que nos différents services de renseignement puissent prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Et d'autre part, il faut bien se mettre en tête que ce combat-là que nous menons aujourd'hui, certes, a pris en vol surtout par les coups d'État, ce qu'on appelle les coups d'État, mais qui en réalité sont des révolutions, n'est-ce pas, au plan national des populations, n'est-ce pas, ont permis à ce qu'aujourd'hui il y ait un éveil de conscience total. Mais cela est dû, j'allais dire, au combat, n'est-ce pas, mené depuis des lustres, une vingtaine d'années environ, par des membres de la galaxie patriotique panafricaine. Je ne cite aucun nom ici, vous les connaissez, ils sont sur les chaînes de télévision, d'ailleurs comme moi, parmi tant d'autres, qui se battent au quotidien. D'autres même ont fait l'objet d'un reportage de France 24, n'est-ce pas, pour ne citer que cette chaîne mainstream. Donc, le comprenez, d'autre part aussi du point de vue stratégique, que des mercenaires, ça ne se balade pas avec des armes dans un sac. Vous comprenez ce que je veux dire? Les armes sont acheminées par qui nous connaissons. Le président Buhari, je vous l'ai dit, en a fait état. Et tout dernièrement, d'ailleurs, le président Ibrahim Traoré, qui en visite au nord de son pays, a remarqué qu'il y avait des armes de dernière technologie, parmi lesquelles le renseignement burkinabé a identifié d'autres qui étaient destinées à l'Ukraine. Des armes de grande puissance, comme la France, par exemple, et d'autres, n'est-ce pas, britanniques, américains, qui se retrouvent sur nos sols. Donc, les velléités sont là, de déstabilisation, non seulement de l'appareil de l'État, des appareils des différents États, mais quelque part aussi d'éteindre cette voie-là naissante du panafricanisme qui reste à tout point de vue aujourd'hui pour nous la seule solution par laquelle nous désengager totalement, n'est-ce pas, de cet imbroglio colonial.
Alors, Monsieur Abdoulaye Nabaloum, vous avez écouté la réponse de Monsieur Soulami Men Hamzat et ma question s'adresse, je vous adresse exactement la même question et j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce que vous en pensez de cette probable opération des renseignements britanniques qui visiblement ont formé des ultranationalistes ukrainiens pour les envoyer en Afrique et essayer de fomenter des déstabilisations pour empêcher toute coopération entre la Russie et les pays africains.
Les dernières décennies, on entendait l'Occident indiquer un nouvel ordre mondial qui allait se mettre en place en leur faveur. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des BRICS, qui est une alternative de financement pour les économies africaines, alors beaucoup de pays africains se sont vus en tout cas une porte ouverte et si on est beaucoup intéressé par rapport à ces BRICS-là. Et de plus en plus, on note que les pays africains sont tournés vers ce nouvel ordre mondial. Donc, l'appui de la Russie est assez important pour nos pays parce que déjà, la Russie apporte militairement un soutien de taille pour concurrencer les guerres, les foyers de tension et de violence qui ont été créés. Et aujourd'hui, nous avons très bien compris que ces différents foyers de tension, ces groupes armés qui sévissent au Sahel et partout en Afrique, sont soutenus, financés, entretenus, équipés par les Occidentaux. Donc, le rapprochement entre la Russie et l'Afrique, les Occidentaux ont compris clairement que leur jeu a été démasqué et plus longtemps, ce jeu-là ne peut perdurer. L'envoi des troupes, des nationalistes ukrainiens en Afrique, c'est juste pour une intimidation des dirigeants et des peuples pour que la dynamique engagée par les peuples de vouloir mettre fin à cette hégémonie, à cette domination des pays africains par les Occidentaux puisse être arrêtée.
D'accord. Je vous remercie pour tous ces éclairages. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Souleyman Hamzat. Alors, parmi les missions dont seraient chargés les combattants ukrainiens, selon les informations donc, qu'on peut trouver ça et là dans les médias, sur le sol africain, justement, les médias évoquent même l'élimination de leaders africains orientés vers la coopération avec la Russie. Alors, comment pouvez-vous ou comment peut-on caractériser cette démarche? Peut-on dire que l'Occident cherche à déstabiliser les pays africains? En quoi cela pourrait-il lui profiter?
Il faut que nous-mêmes, les Africains, nous posions d'abord la question de savoir pourquoi autant d'armes qui viennent de l'Occident, qui atterrissent dans des pays comme aujourd'hui, c'est publié à travers les médias sociaux. Je veux citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, une partie du Tchad. Et pourquoi autant d'armements qui descendent vers ces pays-là? C'est nettement dans le sens, à mon avis, de contribuer à la déstabilisation, n'est-ce pas, des pays qui voient les choses de manière contraire, n'est-ce pas, à la vision de l'Occident. Et puis, vous allez lire un peu la charte, n'est-ce pas, de l'impérialisme pour se rendre compte de ce que... écoutez, vous prenez déjà l'article 1, vous verrez ce qui est dit. Vous prenez certains articles de cette charte, il est bien mentionné qu'il faut éliminer, n'est-ce pas, de manière claire et nette et sans aucun état d'âme, tous ceux qui auront des pensées contraires à celles de l'Occident. Je pense que la Fédération de Russie n'est pas du tout inscrite à ce genre de manœuvre. On sait que la Russie n'a jamais essayé de coloniser un État. C'est une fédération assez libre depuis l'Union soviétique, n'est-ce pas? Le temps de l'Union soviétique, l'Afrique avait ce rapport-là, n'est-ce pas, d'assistance de la part de la Fédération de Russie aujourd'hui, mais Union soviétique de l'époque. C'est grâce aussi à l'aide matérielle, militaire et même financière que certains pays ont pu recouvrer leur indépendance. En tout cas, même si elles sont, d'après nous aujourd'hui, nominales, ce sont quand même des indépendances qui ont été acquises et qui ont permis, n'est-ce pas, de nous conduire aujourd'hui vers le réveil des consciences qui pousse à une véritable indépendance aujourd'hui. Et vous voyez, la Russie n'est pas dans ce diktat idéologique, n'est-ce pas, qui impose aux États, n'est-ce pas, d'être démocrates, autocrates ou je ne sais quelle autre, n'est-ce pas, idéologie pour pouvoir bénéficier soit de l'aide ou de la coopération à tous les échelons, qu'ils soient politiques, économiques, socioculturels, culturels ou même militaires. Donc si les Britanniques se permettent ce genre de coup, ben ils le font quelque part aussi pour l'Europe. Hein. Vous voyez que au Niger, le point sensible, n'est-ce pas, qui est celui de l'uranium, a été touché. Vous voyez même à Paris là qu'il y a déjà des coupures d'électricité par endroit. C'est ce qui est déplorable. On se rend compte, nous les Africains aujourd'hui, de manière assez claire, que, au fait, on se servait de notre sous-sol pour alimenter l'Europe. Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour éclairer la majorité des populations à travers ceux qui ont la bonne information, évidemment, à leur apporter, n'est-ce pas, cet éveil de conscience, surtout le réveil déjà de la conscience et cet éveil patriotique qui vise à, n'est-ce pas, à ne plus permettre que, voilà, nous fassions l'objet de pillage et autres. Donc, leur intérêt, l'intérêt qu'ils ont à faire ce genre de choses, c'est juste pour pérenniser, n'est-ce pas, cette exploitation, n'est-ce pas, inadmissible, inacceptable, hein, que celle d'abord de l'esclavage, ensuite de la colonisation, aujourd'hui de la néocolonisation. L'Afrique est debout désormais. C'est non, niette et plus jamais ça.
Merci, Monsieur Hamzat. Et je vous pose également la même question, Monsieur Abdoulaye Nabaloum. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est en train de préparer des coups d'État dans des pays africains? C'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons vu déjà ça plusieurs fois dans ce continent. Et est-ce que justement, ce qui pourrait advenir dans le cadre de cette politique serait probablement en train d'être fomenté pour empêcher toute coopération entre la Russie et les pays africains.
Et de mon avis, c'est vraiment une peine perdue, en ce sens que il s'agit d'une conscience collective des masses africaines qui s'exprime. Et nous avons toujours en mémoire fraîche l'assassinat de Kadhafi en Libye, de Thomas Sankara au Burkina Faso. Et qui dit Kadhafi et qui dit Thomas Sankara, lâchement assassiné par des Occidentaux, ces leaders-là se sont révélés être de grands leaders, de grands projets, de grands combattants de liberté et de libération de l'Afrique, qui avaient des projets nobles, qui avaient des idéaux nobles pour booster l'Afrique. de sa situation de domination. Donc aujourd'hui, tu es des leaders qui prônent la coopération avec la Russie ne va que attiser la colère des combattants. Et les combattants vont redoubler d'efforts parce que les combattants africains ont compris que seuls les leaders qui travaillent dans le sens de l'intérêt de leur peuple sont assassinés par les Occidentaux. Donc la moindre occasion ne va que attirer davantage la colère des combattants. L'autre point aussi, nous avons compris qu'il s'agit d'une guerre de procuration qui se prépare entre les Occidentaux, la Chine et puis la Russie. Mais les Occidentaux veulent déplacer cette guerre-là pour qu'elle se déroule en Afrique. Et c'est un fait que nous sommes suffisamment conscients de ça. C'est pourquoi d'ailleurs les combattants ont compris et les masses sont en train de se mettre en ordre de bataille pour chasser du pouvoir tous les dirigeants qui sont à la solde de l'Occident, qui sont à la solde de l'impérialisme. Ici, comme je disais, il s'agit d'une intimidation, mais une intimidation vide de sens. Vide de sens parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger, est une guerre de libération qui est en marche. Et l'histoire des peuples noirs nous enseigne que après la lutte, la guerre contre la colonisation, il y a eu la guerre contre l'apartheid. Donc cette guerre qui a commencé est une lutte de libération. C'est dommage que les Occidentaux aient le pressentiment ou en tout cas aient le sentiment qu'il s'agit de simples manifestations de jeunes ou de populations. Mais c'est une véritable guerre, un véritable combat de libération qui se met en place. Il y a très longtemps que la jeunesse africaine est très réveillée et elle s'éclaire de plus en plus. Il y a beaucoup de signaux aujourd'hui qui font que les jeunes africains comprennent beaucoup de ce qui se passe à travers le monde, notamment la relation entre l'Afrique et puis l'Occident. Donc, minimiser cette lutte de libération en une simple coopération Russie-Afrique est une fois de plus mépriser les pays africains. Je pense que l'Occident veut gagner du temps, mais la jeunesse africaine a déjà engagé le combat et cela ne va pas s'arrêter seulement à ces pays, notamment le Mali, le Burkina, le Niger. Ce combat-là va s'étendre, et vous allez le voir très rapidement, dans d'autres pays. J'ai oublié la Centrafrique aussi qui est concernée. Donc l'Afrique a un rôle important à jouer dans la création du nouvel ordre mondial bipolaire, en ce sens que les matières premières vont constituer un socle important pour les échanges commerciaux. Il y a aussi la population grandissante de l'Afrique qui augure un marché important qui va peser beaucoup plus sur les échanges et qui va aussi, cette population de plus en plus grande qui constitue un grand marché, qui va dépasser la population européenne, qui va dépasser la population américaine, constitue un grand marché et une part de marché importante qui va beaucoup jouer dans ce monde qui se veut bipolaire. Donc, les Occidentaux veulent créer toutes les occasions possibles pour maintenir leur domination, alors que les Africains veulent s'affranchir. Et c'est pourquoi, de plus en plus, ces luttes-là vont s'étendre à plusieurs pays. Il faut rappeler que l'histoire aussi a montré que ces luttes de libération, l'Afrique a toujours remporté, même si l'ennemi revient à la charge. La guerre de l'apartheid a limité effectivement les Occidentaux qui n'ont pas pu concrétiser leur projet funeste qui était de récupérer l'Afrique sans les Africains. Ceci a échoué. Aujourd'hui, les Africains ont compris, surtout avec l'avènement du Covid, le Covid qui a tant suscité, qui nous avons vu les communications internationales, des institutions internationales par rapport à l'Afrique, et fort heureusement que les prédictions, ou en tout cas les prévisions, ce qu'ils envisageaient comme pour décimer la population africaine n'a pas pu se produire. Donc ça a été un élément très fondamental qui a permis à beaucoup de jeunes Africains, qui a permis à beaucoup de populations africaines de comprendre qu'il y a véritablement une manipulation occidentale, surtout dans nos pays africains.
Merci monsieur pour toutes ces réponses. Alors une dernière question avant de conclure et de finir cette émission. Alors monsieur Souleymane Hamzat, une série de coups d'État, comme je l'ai dit avant, a eu lieu ces dernières années au Sahel, s'y ajoute désormais le Niger. Alors, peut-on parler d'une tendance qui viserait à se libérer de l'influence occidentale sur le continent? Et pourquoi les pays africains aspirent-ils à ça? Est-ce que ce n'est pas justement une tendance ou une résurgence de la dictature, comme voudrait ne le faire comprendre les Occidentaux et leurs médias? Je parle des élites politiques. Résurgence de la dictature militaire contre la démocratie, le suffrage universel, et ainsi de suite.
Aucun pays africain n'aspire à un coup d'État. En tout cas, les générations, les Africains de ma génération ne sont pas des gens qui aspirent au coup d'État. On a aujourd'hui la chance d'avoir un pays comme le Niger aujourd'hui qui a connu un coup d'État non sanglant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sang. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que bon, les coups d'État que nous avons connus partant du Mali, comme on appelle, de la Guinée, du Burkina Faso, ce sont des coups d'État, au fait, qui font suite, n'est-ce pas, à ces coups d'État que nous qualifions d'anticonstitutionnels. C'est-à-dire que nos constitutions sont tripatouillées par cette élite dite civile, n'est-ce pas, et qui vient au pouvoir, qui veut s'éterniser à travers le tripatouillage des tests. Le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire nous l'a souvent dit, que quand on arrive à ce niveau-là de pose de responsabilité, pour la quiétude, la sérénité d'un État, il faut s'appliquer les tests que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Donc, en conclusion, je dirais que il y a un deux poids, deux mesures, parce que quand vous voyez, du côté du Tchad, par exemple, le président actuel n'est pas élu de manière légale. Et pourtant, il n'y a eu aucune sanction sur le Tchad. Au contraire, on a pris son avion, on est allé à Doubé. Les populations tchadiennes aujourd'hui ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas qu'il y ait cette éternisation, n'est-ce pas, au pouvoir d'une certaine élite, soit-elle familiale ou je ne sais autre. Mais prenons un deuxième cas. Prenons le cas du Gabon, où c'est que c'est la même famille qui est là depuis des années. Et puis, bon, les gens se plaignent. Moi, j'ai aucun souci par rapport au fait que la même famille soit là. Mais il faut s'occuper des problèmes du peuple. Il faut pouvoir apporter au peuple, n'est-ce pas, le minimum, certains besoins fondamentaux qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et puis se soigner. C'est le minimum, c'est le béaba de tout politicien, même novice, qui prend les rênes du pouvoir. Et si vous voyez que de plus en plus, les populations se réveillent et adobent, n'est-ce pas, ceux-là qui sont aujourd'hui en train de faire, n'est-ce pas, ces coups d'État, c'est parce qu'il y a malversation, il y a mauvaise gestion, n'est-ce pas, des deniers publics, mauvaise gestion de la cité, ce qui conduit à des manifestations, pendant qu'une élite, une infirme élite est en train de s'en mettre plein les poches. Ben, écoutez, à côté, il y en a qui, n'est-ce pas, n'arrivent même pas à avoir un plat de riz toute la journée. Et quand le moment de la révolte s'installe, ben, écoutez, ceux qui sont payés par le contribuable, c'est-à-dire le peuple, n'est-ce pas, les impôts du contribuable, ben, sont obligés de prendre des responsabilités. Et on parle de coup d'État. Ben, en matière de coup d'État. Qui nous a enseigné des coups d'État? Prenons le cas de la France, par exemple, avec le général de Gaulle, qui a plus putschiste que lui, n'est-ce pas, en matière de déstabilisation du régime, à travers le système Foucault. Donc, c'est vous dire quoi? Ben écoutez, vous nous avez enseigné un certain nombre de choses qui vous semblent aujourd'hui nuisibles du fait que ce genre d'intervention touche à vos intérêts, ben vous n'aurez que vos beaux yeux pour pleurer. L'Afrique, de toute manière, je vous le dis, est réveillée. Les populations savent désormais ce qu'elles veulent et à en croire nos analyses, elles sont totalement, n'est-ce pas, en inadéquation avec les politiques actuelles, qui d'ailleurs, entre eux-mêmes, ont des velléités de division. Et je peux vous rassurer que tant que les peuples vont se lever pour réclamer justice, ben écoutez, l'armée, qui est payée par ce peuple-là, devra prendre ses responsabilités. Ce que certains interprètent comme l'apologie des coups d'État. Oui, donc voilà mon avis sur la question. Et il va falloir fortement que nos chefs d'État et de gouvernement, n'est-ce pas, reviennent à la normale, se disent qu'ils sont là pour servir un peuple, pas pour le réprimer ou pour l'opprimer. Je reviens à une citation, n'est-ce pas, de feu Isidore Thomas Sankara qui dit « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». Rien que cette citation-là répond entièrement à votre question. On parlerait, disons, d'une révolution de nouvelle génération. Vous savez, l'ancienne génération, je veux dire, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas aller du côté de l'esclavage où nos parents ont été déportés, d'autres se sont battus. Il n'y a qu'à aller voir le film Kunta Kinte pour voir quelle a été la lutte livrée par certains de nos parents pour se sortir, n'est-ce pas, de ce désastre. Ensuite vient l'étape de la colonisation où c'est qu'on nous impose le 35 fois par exemple. Le dictat politique, il fallait que vous soyez un État dit démocratique, surtout cela a commencé avec le discours de la Baule. Et ensuite, il y a que les accords, n'est-ce pas, des accords signés entre la France et certains de nos parents, des accords coloniaux, fixent par exemple en l'article 5 et 6 que, par exemple, le matériel militaire français doit faire l'exclusivité de la France. Mais ce dictat-là, il est inadmissible. On ne peut pas comprendre que des États... J'ai une question que je me pose, d'ailleurs, pour ne pas aller trop loin dans mon développement. Mais comment nos parents ont pu signer un tel torchon? Comment ils en sont arrivés là? Et puis aujourd'hui, vous voyez que la multiplication de ces phénomènes-là nous apporte aujourd'hui le néocolonialisme. Vous devez être démocrate, et encore démocrate bonté, avec un col blanc, pour exerçant, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que vous imposent les Occidentaux. Raison d'ailleurs pour laquelle ils nous ont fabriqué une myriade de démocrates. Démocrates, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, et qu'ils ont mis à la tête de nos États et qui ne servent que les intérêts occidentaux. Et quand ils sont bousculés, on dit « Ah non !» L'armée doit retourner dans les casernes, mais l'armée n'est-elle pas une émanation du peuple? Le militaire n'est-il pas un citoyen? Ben, si tel était le cas, ils auraient pu demander à De Gaulle de retourner dans les casernes. Ils auraient pu demander au général De Gaulle de retourner dans les casernes. Et il faut noter, du point de vue comportemental, quelque chose que nous ne comprenons pas de la France. Le président Thomas Sankara nous l'a dit, beaucoup d'autres qui ont dirigé des États l'ont dit. Mais quand est-ce que la France changera sa manière de s'asseoir ou de penser? Ça ne peut pas continuer comme ça. Et bon, de peur de se retrouver un peu accusé ou indexé, comme c'est le cas d'ailleurs avec la CEDEAO, le Méli Mélo, d'ailleurs qui vient d'être rejeté par l'Union africaine. Là, ce matin, il y a eu une décision de l'Union africaine qui refuse une intervention, qui refuse de manière catégorique une intervention militaire au Niger. Ça vous dit que, au fait, nos chefs d'État ne sont pas en adéquation totale avec les populations. Les populations ont des besoins. Allons à l'essentiel. Est-ce qu'on a besoin d'être démocrate pour régler ces problèmes-là? Est-ce qu'on a besoin d'être un autocrate pour régler ces problèmes-là? Non. Le problème, est, ma vision est, à moi, est celle-là, n'est-ce pas, du panafricanisme, qui consiste, n'est-ce pas, qui nous interpelle sur les réalités que nous sommes d'abord des Africains et que nous devons faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est obligé de venir nous dire vous devez être démocrate ou autocrate ou je sais pas quoi, quel titre ils donnent à leur connerie pour n'est-ce pas, faire partie du monde politique? Et mieux, pour chuter par là, des pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée et maintenant le Niger s'inscrivent dans cette logique-là, n'est-ce pas, du refus total et inconditionnel du dictat français. C'est terminé, le dictat français. Il faut en finir avec le bordel. Je suis coagulé dans ce que je vous dis, et mon analyse est celle-là que vous voyez des jeunes qui sont aujourd'hui à travers les rues en train de dire « Abat la France, abat la France ». Ils interprètent ça comme un sentiment anti-français. Si tel est que il est demandé à un jeune d'aspirer à son indépendance, quels que soient les moyens, et que cela soit interprété comme un sentiment anti-français, ben oui, on l'assume. Et après, ben, je voudrais seulement, au sorti de cette interview, demander à mes compères, c'est-à-dire mes frères et sœurs de la galaxie patriotique panafricaine, tous ceux qui ont l'aspiration des porte-voix, des journalistes, tous ceux qui se mêlent de ce combat-là, à tous les échelons, toutes catégories socio-professionnelles et confessionnelles, de prendre des dispositions sécuritaires. Parce que les mois à venir devant nous, les semaines à venir devant nous seront rudes. Et croyez-nous, on est déterminés, on est prêts, au péril même de notre vie, à faire redorer le blason de l'Afrique, à lui redonner sa dignité et surtout à lui faire garder son authenticité. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci, monsieur Hamzat. La question est aussi posée, monsieur Abdoulaye Nabaloum. Alors, les coups d'État, c'est d'un changement salutaire soutenu par les peuples ou c'est résurgence de dictature? Et pourquoi en Afrique, justement, parle-t-on tout le temps de volonté, de velléité, d'émancipation de l'influence occidentale et du néocolonialisme?
Comme je disais, il s'agit d'une lutte de libération qui est engagée et non un simple sentiment de rejet de la France ou de l'Occident. Aujourd'hui, les populations africaines, dans leur majorité, ont compris que ceux qui financent la guerre sont ceux-là même qui organisent les élections et demandent la démocratie. Les Africains ont compris que la démocratie occidentale, c'est celle qui prône la domination de l'Afrique, celle qui favorise la malgouvernance, celle qui ne prend pas en compte les intérêts des populations africaines. C'est celle qui protège les intérêts des dirigeants africains qui travaillent pour le monde occidental et non pour les populations africaines. Alors, le cas du Niger montre clairement que cet impérialisme et ce néocolonialisme qui régnaient dans nos pays sont l'illustration parfaite de la domination et l'exploitation et le pillage organisé de nos ressources naturelles.
Messieurs, je vous remercie pour toutes ces réponses. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère, monsieur Souleymane Hamzat Abdoulaye Nabaloum, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'autres sujets. Merci encore une fois et à très bientôt. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.